matin, 9h-11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 13 du Club de l'été. Le Club, c'est une histoire de rencontres, une histoire de passion, de coups de cœur pour des films, pour des livres, pour des musiques, pour des expos qui nous animent et que nous avons envie de partager avec vous. Le Club, c'est 2 heures de direct, rythmé aussi par notre gourmandise pour le patrimoine et tout ce qui embellit nos assiettes. Une émission au cours de laquelle vous entendrez aujourd'hui les mots paillettes, Nice, mort, soca et astronomie. Eux, ce sont mes amis paillettes et les meilleurs experts du monde. Lise Pressac pour le tourisme et la culture, Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut les amis.
Salut Eva, bonjour à tous.
Bonjour Eva, ça y est, vous avez encore réussi.
Non. C'est dingue, hein.
À nous emmener à
Attendez,
Nice.
deux secondes. Ne dites pas tout. Est-ce que d'abord le studio climatisé vous va bien?
Oui, très bien.
Ok. Lise, notre invitée est née à Nice. D'abord, pouvez-vous déclarer en toute sérénité que je ne vous ai pas forcée à faire cette émission et que c'est en votre âme et conscience?
Je ne subis aucune
Vous avez
pression.
Choisi le site que nous allons découvrir dans la deuxième partie de l'émission.
On va prendre un peu de hauteur, on va aller sur le plateau de Cossol. On est à environ une cinquantaine de kilomètres de Nice.
Et Olivier, on mange quoi?
Vous m'avez imposé de parler de la soca, donc eh bien, nous allons parler de la soca. meilleure soca niçoise, c'est vraiment l'emblème de la gastronomie de la ville, la soca.
C'est ma journée dictatoriale. On terminera l'émission avec une nouvelle recette pour agrémenter nos pique-niques, Olivier. Et puis ce qui vous attend, c'est 2 heures de découverte culturelle auxquelles vous pouvez participer, à vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, possède une voix, une plume et une présence qui font d'elle une artiste à qui j'attribue d'office le label coup de cœur du club de l'été. Comme ça, c'est fait. Cher invité, voici quelques sons qui racontent des tout petits bouts de votre parcours.
Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. T'as pas la notion de la dévotion.
Bonjour, c'est pour le Only 17.
Oui, c'est un peu ça. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le club de l'été sur Europe 1. Avertissement en préambule, je dis Rose comme je veux.
Voilà. Avec le mot que
je
veux.
Je sais, il y a déjà des messages sur Twitter.
Tu le dis comme mon père, donc tout va
bien.
Voilà,
merci beaucoup Rose. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques jours, sortira votre projet Kérosène. Je dis projet parce qu'il s'agit à la fois de votre 5e album et d'un livre édité aux éditions Ipanema. On va évidemment parler de tout ça. On entend... Là, ma paillette, qu'on écoutera plus longuement tout à l'heure. Mais avant d'évoquer cette nouvelle aventure, est-ce que vous pouvez nous décrypter les petits sons que vous avez entendus dans vos oreilles?
Ah bien oui, en fait, on a eu Janis Joplin pour commencer, Summertime.
Et qui est une référence pour vous, Janis Joplin?
C'est la référence, en fait. Je pense que c'est le personnage musical, en tout cas, qui m'a semblé... pour la première fois habitée par ce qu'elle chantait, par sa vie en fait. Elle vivait vraiment sa vie comme on essaye aujourd'hui de parler toujours du moment présent et que c'est devenu une mode. Je pense que, alors peut-être qu'on meurt à 27 ans quand on le fait vraiment. Mais en tout cas, oui, ça m'a passionnée immédiatement dès que j'ai entendu sa voix et puis j'ai lu sa bio et puis finalement peut-être que je me suis inspirée de tout ça et que ça a donné un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui sur Kérosène.
Ouais,
mais j'avais une telle admiration pour elle que quelque part aussi j'avais cette passion pour l'autodestruction, ça c'est sûr. Et j'avais l'impression de le faire quelque part en accord avec ce que j'étais et ce que je voulais être, c'est-à-dire elle. The Rose, donc, c'est le film Bette Midler.
Et qu'on
donc,
a entendu.
Voilà, c'est inspiré pour le coup
de la vie de Janis,
mais c'est pas exactement sa vie, mais c'est ce qui a donné mon nom de scène, puisqu'il a fallu en chercher un. Ça me paraissait évident de chercher quelque chose autour de tout ce qui pouvait toucher à Janis Joplin. On a écouté Alain Souchon.
Oui, c'est un duo avec vous, en fait, sur une émission. sur un titre.
Sur un titre, exactement.
Marc Lavoine.
Marc Lavoine.
Ce matin, je suis sur Rita Mitsouko.
J'ai chanté ça, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait je l'ai enregistré au studio de Pascal Obispo. C'était merveilleux. Mais j'étais à Suresnes et j'étais déjà avec Pascal, donc pour moi, c'était quelque chose.
Ouais.
Je suis chez lui. Alain qui arrive, mais il faut savoir que et je l'avais déjà rencontré, surtout,
voilà,
c'est que j'ai fait
cette
première partie. Ouais. C'est ça, surtout, plus que ce duo qui était pour moi déjà une consécration. Mais le moment où on m'a proposé de faire les premières parties d'Alain Souchon, c'était quand même pour le Zénith et l'Olympia, enfin, c'était quelque chose.
Première partie.
Oui,
hein.
Ouais, ouais. Mes premières parties.
Et puis on a entendu un petit bout du Soldat Rose.
Alors ça, le Soldat Rose.
Ouais. Alors le Soldat Rose. J'ai dit que je disais comme je voulais.
Oui.
Alors le
Soldat Rose.
C'est moi la patronne de l'émission.
C'est carrément pour moi un moment. C'est une parenthèse enchantée dans ma vie parce qu'en plus c'est au moment de ça se passe. Au moment où j'écris ce livre, donc c'est une période, j'en parle pas dans le livre d'ailleurs, c'est dommage, mais c'est une parenthèse enchantée parce que j'ai adoré faire cette tournée, j'adorais faire cette chanson-là. J'ai eu la chance de pouvoir remplacer Camélia Jordana qui s'est absentée.
Vous faisiez la boîte à meufs.
La boîte à meufs. Ouais.
Spectacle musical.
Ouais. Et puis c'était pour les enfants, je l'écoutais en boucle en fait avec mon fils. Et j'ai appris qu'elle ne pouvait pas faire la tournée. Je me suis moi-même auto... j'ai envoyé mon CV.
Auto-proposé.
J'ai dit, voilà, je connais par cœur, je suis fan. Cette chanson, c'est ma chanson. Voilà, sachez que je voudrais le faire. On m'a répondu, évidemment, comme j'y suis, de toute façon, on m'a répondu que oui, j'y croyais même pas. Et voilà, donc ça, c'était un moment magique.
Alors, c'est marrant parce qu'il y a autre chose à laquelle on n'avait pas cru, c'est qu'on vous avait proposé une chanson à Jean-Louis Murat, dont on a entendu la voix, pour un duo, sur l'avant-dernier album Pink Lady, et il a accepté.
Alors, ça, c'est incroyable. Ouais. Parce que moi, j'aimais beaucoup Jean-Louis Murat, et en fait, c'était un petit peu une bouteille à la mer, quoi. Bon, si jamais ça te dit, voilà.
Si vous en
je, voilà. Il a dit oui, c'était incroyable. Et il est venu, c'est ça qui est encore plus incroyable, parce qu'on m'a dit,
oui,
tu vas voir, il a dit
oui,
mais il
ne
sera
oui.
pas là. Il est venu au studio, et voilà, moi, je trouve... C'est une de mes chansons préférées. Et
parce qu'il y en a qui font des duos sans jamais se voir. En
oui,
fait,
c'est
hein.
ça.
Oui, c'est vrai.
On
c'est
y
vrai.
Est sur
à
le
distance.
Clip, on nous voit, on est
ah,
ensemble.
C'est
non,
vrai.
Non, c'est merveilleux. Et franchement, c'est une de mes chansons préférées qui a été composée avec une amie à moi qui s'appelle Loane, qui n'est pas Louane, mais Loane. Et c'est une chanson que j'aime énormément.
On a entendu Nice à la Bella parce que vous êtes de Nice et ça, c'est formidable. On
oui,
va en parler.
En toute objectivité, bien sûr.
En toute objectivité. Et puis, on a entendu aussi un bout d'Abba.
Je pense que c'est une référence à un petit peu à l'arme à paillettes,
mais
peut-être.
Oui,
hein.
Oui, on entend sur les ondes ouais. et qu'on va écouter, évidemment.
L'album n'est pas disco, mais il y a quelques titres, quelques sons, en tout cas, qui le sont.
Oui.
On est plus sur du disco à la française, plus proche de quelques morceaux de France Gall ou Michel Berger. Il y a aussi des titres...
Ah oui, Si ce n'était pour toi,
oui,
sur votre album, où j'ai cru entendre France Gall
ouais.
et Michel Berger. C'est-à-dire qu'on voyait le duo... C'est formidable. Tout l'album est formidable, je vous le dis tout de suite. On va en reparler, bien évidemment, ouais. Ross, si vous êtes d'accord. Ouais. Votre nouveau projet album plus livre s'appelle Kérosène. Kérosène pour Keren, votre vrai prénom. Et Rose, votre nom de scène. J'ai fait des recherches rapides. Hein. Le dédoublement de personnalité et la schizophrénie sont deux pathologies différentes. Est-ce que vous êtes rassurée par ce que je viens de vous raconter?
Non, on a essayé d'envisager la thèse de la schizophrénie
non,
et de la bipolarité. Apparemment, je ne le suis pas. Bon,
non.
Je suis plein d'autres choses, en revanche.
Vous êtes plein d'autres choses et on va évidemment en reparler. On a 11 heures, jusqu'à 11 heures.
On a 11 heures. Oh oui, trop bien.
Mais il fallait me prévenir parce que j'ai un déjeuner ce midi, donc oui. J'annule tout.
Annule tout. Annulez. Et revenez. On a jusqu'à 11 heures pour parler musique et évoquer votre carrière.
C'est dément, avec l'heure, c'est compliqué.
Mais
cette
l'heure,
saison.
C'est compliqué. Je suis en décalage horaire, je suis désolée. Notre première pause musicale, c'est vous, Rose, avec ce premier single, mais addictif, L'arme à paillettes sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté. J'ai le cœur up-tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là. Qui frôle quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid, comme pour la première fois, sur un slow de Abba. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour.
J'ai le cœur synthé comme un disque démodé qu'on balance au grenier. J'ai le cœur éparade qui n'aime plus qu'on le balade, qui veut remplir des stades. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour. Petit en beau la facette, percée des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête. Toujours remuer les hanches. Petit en beau la facette, percée des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête. Toujours remuer les hanches. Petit en beau la facette, percée des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête. Petit en beau la facette, percée des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours remuer les hanches.
Rose est avec nous jusqu'à 11h en direct sur Europe 1. Il y a une guitare dans le studio, je dis ça comme ça, hein. À tout de suite.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
Il est 9h25, nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Notre invité du jour est la chanteuse Rose. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages et vos questions. Lise, quoi, il y a plein de messages d'amour.
Énormément de messages d'amour. Il y a Sabrina qui vous dit « J'adore Rose, découverte il y a bien longtemps en première partie de Souchon. Depuis, je la suis et j'ai tous ses albums. » Il y a David qui nous dit « J'adore Rose, son écriture, son univers, son way of life. La suivre sur Twitter est un délice, une vraie artiste. » Et il y a Rose, une autre Rose, les deux premières notes de L'arme à paillettes, on dirait l'intro de Fernando d'Abba. Est-ce que c'est volontaire?
Alors c'est marrant parce qu'on a pris un petit peu la référence à bas, mais je connais pas ce
mais
titre.
Mais moi non plus.
Non plus, hein. Et ça m'intrigue carrément.
Ah, notre réalisateur a déjà trouvé?
Non, c'est pas possible. Ah non,
c'est
pas ça.
C'est la mienne. Oui. Mais Fernando, moi je connais pas.
Fernando.
Non mais c'est vrai, on va essayer de retrouver Fernando, mais je pense qu'effectivement ça ressemble.
On va retrouver.
À ça.
On va retrouver.
On appelle un témoin sur Fernando.
Nous sommes en ligne avec Fernando. Bonjour.
Elle a retrouvé Fernando. C'est ça?
Ah, non, je vois pas trop le rapport, mais pourtant c'est l'intro de je pense. Non, pas du tout. Mais enfin,
ah ben,
non, ça c'est les Péruviens dans le métro. Non,
oui,
non,
ça
non.
C'est.
Non, je ne connais pas ce titre, mais en revanche,
Dancing Queen,
Dancing Queen, je crois.
Oui.
Ah, c'est beau,
ouais, c'est beau quand même. Merci beaucoup,
Robin.
Merci.
Ouais, alors vraiment,
merci.
Bravo. Hein. Quelle rapidité.
Ouais. Les auditeurs disaient qu'ils vous suivaient depuis votre première partie avec Alain Souchon. Il y a 4 ans, sortez votre précédent album, le 4e, Pink Lady. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans? Vous vouliez nous faire.
C'est pas tant que ça quand vous réfléchissez. Demandez à Francis Cabrel qu'est-ce qu'il fait pendant 12 ans.
Oui, mais.
Bon, lui, il a des vignes et tout ça, voilà. C'est pas pareil.
Qu'est-ce qui s'est passé, Rose, pendant 4 ans?
Non, franchement, j'ai eu un album, j'ai eu la chance de faire un album tous les 3 ans depuis le premier. Donc c'est 2006, 2009, 2012, 2015. Là, c'est 4 ans. Bon, c'est un an de plus que d'habitude, c'est pas énorme. Il s'est rien passé pendant 3 ans.
Oui.
Et puis soudainement la révélation et donc l'écriture de ce livre. Et enfin, il s'est rien passé en termes d'écriture. Il s'est passé énormément de choses, évidemment, et c'est ce que je vais raconter dans ce livre.
Oui, parce qu'on parle de projet depuis tout à l'heure, un projet Kérosène, c'est-à-dire c'est un livre et un disque. Vous avez commencé par écrire le livre, le disque est arrivé après. C'est très personnel. Vous avez une faculté, je précise quand même, qui est de rendre universelles vos propres histoires, et c'est pour ça. Je pense qu'on a été touchés, notamment avec Lise, quand on a à la fois écouté l'album et lu votre livre. Vous ne vous épargnez pas, hein, Rose. En résumé, sexe, drogue and rock'n'roll, mais sans le côté glamour. Vous avez écrit pour vous, pour vos proches, pour personne, pour qui?
J'ai écrit vraiment, ça fait cliché de dire ça, mais j'ai écrit au début pour moi. C'était un petit peu un journal de bord de sobriété. Donc j'ai commencé à écrire quand ça allait mieux.
Après une période très noire.
Mais c'est une période très longue, en fait, qui a commencé très festivement, et c'est ce que raconte L'arme à paillettes. C'est le chapitre 2 et la chanson numéro 2. Donc, ça raconte ce moment où on part, on passe de l'anonymat à la célébrité, entre guillemets, parce que c'est une petite célébrité, c'est pas international ou quoi que ce soit, mais on est quand même inconnu, et soudainement, on vous montre du doigt, on est en train de faire nos courses et on vous parle. Je viens de prendre un petit studio, oui, et puis je viens de. de commencer ma vie à Paris. Je prends un studio de 17 mètres carrés. Mon propriétaire m'appelle 3 mois après. Il me dit, mais enfin, fallait me dire, parce qu'on avait du mal avec la caution. Mais enfin, fallait me dire que vous étiez riche. Mais je ne le savais pas 3 mois avant. Mais vraiment, j'ai pris ce studio. J'étais en fin de carrière d'institutrice. Donc, il se passe tout ça. Et moi, avec cette passion pour Janis Joplin, et puis soudainement un peu d'argent, je commence à sortir beaucoup et à faire beaucoup la fête. Et puis c'est la vie parisienne. Et j'avais commencé déjà à Nice sans souci, j'étais déjà dans les bars beaucoup. J'adorais ça, la musique, les bars, l'alcool, la fête.
Voilà. La fête, la nuit, s'enivrer.
Voilà, et j'aimais beaucoup la nuit. C'est vrai que j'ai toujours dit ça, j'aime la nuit, s'y passe des choses, on se dit des choses. Et je le pense encore. Il y a des vérités, tout ce qui m'arrive dans ma vie vient de la nuit, les rencontres, beaucoup. Donc j'ai voulu profiter à fond de tout ça, et ça a amené forcément à un moment donné de la dépendance, dépasser ses limites, et en fait surtout ne plus en avoir.
Et vous racontez que ce livre Olivier n'est pas une autobiographie, que vous n'avez pas la prétention encore de faire, mais c'est en revanche votre biographie.
Voilà, c'est une période...
C'est votre vie.
Voilà, je ne me suis pas inspirée de quelque chose. Je raconte ce que j'ai vécu exactement. Il a fallu forcément revenir un peu sur l'enfance et tout ça. Donc ça, c'est le chapitre 1 qui regroupe en un seul chapitre tout ce qui m'a amenée à Paris. Et après, les chapitres s'enchaînent en racontant justement le déroulé de cette carrière de 2006 à aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a un lien avec la carrière, évidemment.
Et ça s'enchaîne à un rythme effréné, et c'est très bien écrit.
Et c'est très bien écrit.
Merci beaucoup.
On va évidemment continuer à en parler, on va continuer à parler de musique. Dans un instant, Rose, vous allez aussi nous faire partager un coup de cœur pour un livre que nous avons également adoré. Et une auditrice, Skirlito, partagera son coup de cœur pour un livre également. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de notre invitée, la chanteuse Rose. Rose, en préparant cette émission, on vous a demandé quel était votre coup de cœur et vous nous avez dit « Pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie ». Alors, c'est pas un devoir de philo, les amis, mais c'est bien le titre d'un premier roman, celui de Lionel Abo, édité chez Plon. Et je partage avec vous ce coup de cœur. J'ai adoré ce livre. C'est l'histoire d'Adolphe Goldstein qui a choisi de faire de la mort une entreprise lucrative. Alors, bien plus lucrative qu'un simple croque-mort, hein, je vous préviens, parce que le héros, il va aller très très loin pour nous aider à réussir notre mort. Pourquoi vous avez aimé ce livre, Rose ? Attendez, on va vous ouvrir votre micro, voilà, ça y est. Voilà.
C'est le seul roman d'abord que j'ai lu depuis 5 ans, je crois, parce que je ne lis plus de romans, je n'arrive plus à m'intéresser à des histoires fictives et tout ça, parce que je me suis un peu plongée dans des choses un peu plus profondes, je ne sais pas ce que j'ai avec la philo en ce moment. Voilà, c'est plus philosophique, mais je trouve justement ce roman très philosophique, et comme je l'ai évoqué dans mon blog, j'ai fait un petit post. Oui, c'est cool, parce que comme je ne suis plus trop... je ne participe plus trop aux réseaux sociaux, en tout cas, je n'aime plus échanger sur ces plateformes et je préfère donner des infos sur le blog.
Rose-leblog.fr.
Merci.
On mettra tout sur.
Super. En fait, c'est un livre, le sujet aurait pu être au bac philo, ouais, en effet, parce que d'essayer de parler de la mort, tout simplement pour commencer à vivre, en fait, j'ai l'impression qu'on a peur de la mort et que c'est un énorme tabou et que en fixant le jour de sa mort, peut-être qu'on va tout simplement commencer à vivre.
Et réussir peut-être sa vie. Vous savez quoi ? Je vous propose de demander à l'auteur ce qu'il en pense aussi. Lionel Abo est avec nous.
Hein.
Bonjour Lionel.
On est sur Nice alors.
Mais oui.
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Merci
bonjour,
Lionel
bonjour,
d'être avec
bonjour.
Nous.
Ah, c'est
bonjour.
Génial, trop bien.
Lionel Abo, on s'est parlé il y a quelques jours. Je vous ai dit que j'avais adoré le livre et qu'on avait en l'occurrence une invitée qui allait venir cet été pour nous dire qu'elle avait aussi aimé beaucoup aimé votre livre. Mais je ne vous avais pas dit qui c'était. Et en fait, je me
Absolument.
Suis rendu compte que vous vous connaissiez, en fait. Je ne le savais pas.
Bah, on vient de la même ville. Je suis niçois aussi. Moi
mais
aussi,
c'est la
Rose.
Mafia, ce matin.
Et oui, oh, c'est la mafia.
Voilà. Mais je c'est tiens à préciser que ce n'est pas parce que je le connais que j'ai aimé ce livre, vraiment. C'est-à-dire que ça m'a vraiment beaucoup parlé.
Comment est née cette histoire, Lionel Abo ? Ça a été un moment de déprime chez vous pour écrire sur la mort ou pas du tout ? Au contraire, c'était un moment joyeux.
Non, pas du tout. C'était déjà même si effectivement le livre parle de la mort, je pense pas que ce soit un livre morbide du tout.
Pas du tout.
C'est un livre qui se veut drôle, un peu dérangeant et effectivement qui parle plus de la vie que de la mort et du fait que bah, si on savait quand est-ce qu'on allait mourir, peut-être qu'on profiterait un peu plus de la vie et peut-être qu'on arrêterait de se croire éternel et de faire comme si la mort était un concept théorique. mais une vraie réalité. Oui. Donc ça parle de ça, ça parle du fait que on peut organiser sa mort déjà de façon d'une façon qui nous ressemble et pas en la subissant. Et d'autre part, du coup, si on sait quand est-ce qu'on va mourir, si on décide le jour où on va mourir, on peut profiter de chaque jour qui nous reste de la façon dont on veut.
Alors je vous confirme, on rit beaucoup, en tout cas au début du livre. Après, ça se noircit au fur et à mesure. Et il y a eu un moment où j'ai été un peu angoissée quand même en vous lisant,
avec
Lionel,
le cannibale, par exemple.
Oui, par exemple, avec une histoire de cannibale. On peut pas tout raconter, mais
non, c'est toujours. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autodérision quand même. Et puis le personnage, on s'attache énormément parce que quelque part, de toute façon, c'est un peu le concept de la lecture. On trouve toujours des points qui nous ressemblent. Mais moi, je trouve qu'il y a cette plume très, très affûtée. Je ne sais pas si ça se dit. C'est noir et en même temps, on rit. On rit.
Et alors, Lionel, maintenant, il va falloir que vous lisiez le livre de Rose qui sort en fin septembre. Kérosène.
Ah bah, j'ai hâte. Elle m'a donné envie, effectivement. Je suis sûr qu'il y aura des points communs avec, avec le mien, en tout cas.
Le jour de ma mort, c'est clair.
Ouais, c'était 27 ans, c'est ça. Le même que Janis Joplin.
J'ai bien dépassé.
C'est un peu décalé maintenant.
Ouais. C'est un peu décalé. C'est foutu, et tant mieux, en fait. On peut le dire, même. Voilà.
Absolument, je suis bien d'accord.
Merci beaucoup, Lionel Labo, d'avoir été en direct avec nous. Votre premier roman et notre coup de cœur pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie. Et c'est publié chez Plon. Merci infiniment d'avoir été en direct.
Merci
Lionel.
Alors, Rose, nos auditeurs aussi ont envie de partager leur coup de cœur. Bonjour, Skirlito.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Et c'est aussi un livre qui vous a incité à nous appeler. Il s'agit du 8e soir d'Arnaud de Lagrange. C'est publié chez Gallimard. Est-ce que vous pouvez nous en raconter en quelques secondes à la fois l'histoire et nous dire pourquoi vous avez aimé ce livre ?
Oui, alors c'est le deuxième roman du journaliste Arnaud de Lagrange. Et ce n'est pas du tout un énième roman ou un récit sur la guerre d'Indochine ou la tristement célèbre bataille de Dien Bien Phu. Non, pas du tout. C'est le testament d'un homme pris dans ce tourbillon et qui est en train de s'arracher à lui-même. Alors l'histoire, c'est pendant 8 jours, c'est pour ça que ça s'appelle 8e soir, 1er soir, 2e soir, pendant 8 jours, il raconte chaque instant du temps présent ou du temps passé, entre les balles qui pleuvent, les cratères qui se transforment en tombeaux éternels, et là le narrateur repense à la fois à la bravoure de sa mère face à la maladie incurable, jusqu'au dernier geste solidaire d'un compagnon de guerre. Et c'est ce qu'il veut transmettre, c'est que c'est dans les moments les plus cruels que la dignité humaine sort ses plus beaux atouts. Alors contre toute attente, on peut penser que ça va être un livre très très noir.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander.
Et bien il y a une lumière indescriptible qui traverse de part et d'autre ce roman grâce à la splendide écriture. La beauté narre l'horreur, la sensualité se ferait une place au milieu des chemins des morts. Et ce qui est frappant avant tout encore, c'est la force avec laquelle Arnaud de Lagrange narre comment une guerre peut mettre aussi en valeur toute l'humanité dans l'inhumanité. C'est mettre un cœur pendant que les pierres pleuvent, c'est mettre des caresses pendant qu'il y a un bain de sang, c'est glisser quelques notes de musique dans le fracas des explosions. C'est absolument superbe.
Skirlito, pardon, je vous coupe parce qu'il y a Rose à côté de moi qui ouvre des grands yeux en vous écoutant.
Non, je me pose la question, Skirlito, si vous avez écrit ce que vous êtes en train de nous dire.
Oui, elle tient un blog, Skirlito, que je vous recommande.
C'est magnifique parce que, d'accord, ok.
Est-ce qu'elle pourrait m'aider à écrire mon argumentaire sur mon livre parce que j'aimerais en parler comme ça, moi.
J'ai tellement peur de parler en direct à la radio.
Ah oui, mais vous avez bien raison, parce que moi j'ai tellement peur de travailler.
Est-ce que je peux lire un extrait ?
Alors allez-y, mais alors très très vite.
Oui, c'est un court extrait, c'est pour mettre justement cette dichotomie entre ceux qui font la guerre et ceux qui la déclarent. Alors, à cause d'un homme, je garde un goût amer de ces heures en haute région. Il y a des êtres qui semblent glisser sur la terre, sans la marquer, et d'autres qui y laissent de lourdes empreintes. Le colonel qui commandait le groupement était de cette dernière engeance. Qu'était-il venu faire ici ? Mettre un peu de boue sur ses souliers trop propres, sans doute. Il faut parfois donner un peu de patine à sa vie. Il avait fait carrière en rejoignant une écurie d'officiers du même acabit. J'ai une profonde aversion pour les groupes qui s'agrègent autour d'une idée, ou pire, d'une ambition. Les chapelles, les clans où l'on se passe de main en main attribut du pouvoir et privilèges associés. Je n'aime guère ceux qui chassent en meute sans avoir le courage de courir seul.
Je crois c'est qu'effectivement, on va faire 11 heures d'émission.
On va faire 11 heures d'émission. Mais merci, merci beaucoup, Scarlito. Merci infiniment. Je rappelle le titre de ce livre d'Arnaud de Lagrange, ce roman d'Arnaud de Lagrange, c'est 8e soir. C'est publié chez Gallimard. Merci infiniment. Vous étiez déjà avec nous l'été dernier. Vous nous avez donné envie d'écrire,
vous
de
vous
lire
voulez.
Des livres.
L'été prochain.
Et de lire votre blog. Merci infiniment. Vous revenez quand vous voulez. Vous pouvez, vous aussi, intervenir à l'antenne en direct pour nous faire partager un coup de cœur. Vous nous envoyez un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et on revient vers vous très vite. Rose, dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran et un cadeau. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Vous le savez, c'est ça le club de l'été d'Europe 1 et bien plus encore grâce à la présence de nos invités. Et aujourd'hui, c'est la chanteuse Rose qui nous accompagne. Un petit cadeau pour vous, Rose. Pas votre titre, hein, mais un livre BD qui est signé Maxime Poiseau et Emmanuel Terrasse aux éditions Marabout, ou comment aborder les relations hommes-femmes avec humour, si si c'est possible, notamment depuis que la parole des femmes s'est libérée, et comment on cloue le bec à tous les préjugés et toutes les idioties qu'on peut entendre. Bon, on est d'accord, il y a encore du boulot, hein, mais c'est pas mal aussi de clouer le bec à certains, à certaines réflexions qu'on n'aime pas entendre. J'ai adoré ce petit livre et il est pour vous.
Merci.
Rose, je crois que vous regardez encore la télé et notamment les télécrochets.
Oui, ça m'arrive.
Quand est-ce que vous arrivez dans un jury d'un télécrochet quelconque?
Ah bah j'aimerais, je lance.
Vous lancez un
appel? Lancé.
Non. Évidemment que ça serait pour moi une je sais
vous
pas, jubilatoire.
Il y a très peu d'artistes qui osent dire ça.
Ah non, j'aimerais, mais je me sens pas du tout forcément la légitimité de le faire, mais ça m'amuserait tellement.
Et nous aussi, parce que vous êtes hyper drôle sur les réseaux sociaux quand vous live tweetez les émissions.
Quand j'y étais.
Quand vous
y
étiez.
Non, c'est parce que c'est vrai que c'est ça qui est le plus drôle, c'est d'essayer de mettre du second degré dans tout ça,
sûr,
parce que je trouve que malheureusement les télécrochets sont quand même très premier degré et qu'il nous manque un petit peu ça. Et heureusement qu'il y a les Twitter en fait pour dédramatiser un peu le truc. Et puis souvent c'est un petit peu trop, je sais pas, ça va trop dans le sens, dans le politiquement correct, on est trop gentil.
Bon voilà, l'appel est lancé. Il faut prendre Rose dans le prochain jury d'un télécrochet, The Voice par exemple.
Si vous voulez des méchants.
Ouais. Et j'ai cru comprendre que vous adoriez cette série en parlant d'écran.
Oh.
Ah, mais rien que... Ah non, mais...
C'est rare que ça fasse autant d'effet. Hein.
Rien que le générique, j'ai des palpitations. Quoi, ça reprend?
Saison 9 là, carrément, je crois.
Alors, il s'agit de la série Shameless.
Oh là là.
Est-ce que vous arrivez à nous faire le pitch de la série?
Bah, c'est déjanté, c'est très rock'n'roll, c'est très trash, donc ça me plaît énormément.
La famille Gallagher.
Ouais, la famille Gallagher, père, 3 fils, 2 filles, 4 fils même. On ne sait plus parce qu'il y a un petit black, on ne sait pas s'il est là ou s'il n'est pas là, on ne sait pas d'où il vient.
La maman, s'est
tirée, c'est un peu bipolaire. Il y avait un autre bipolaire d'ailleurs dans la famille, un alcoolique. Le papa, je pense qu'à chaque fois on pense que ça ne peut pas être pire, qu'il ne peut pas être plus... plus horrible avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à amener son petit gamin faire la manche pour récolter quelques pièces pour s'acheter une bière. Mais non, ça peut toujours être pire, il va plus loin. Et c'est extrêmement drôle et on s'attache... moi j'ai une passion pour Fiona et son frère Lip. C'est mes deux personnages préférés.
On vous recommande vraiment cette série. Ça s'appelle Shameless et c'est à voir sur Canal+, sur MyCanal.
Apparemment deux versions de série. Moi je regardais l'américaine et apparemment il y aurait une anglaise ou je sais plus quelle autre nationalité.
Non, on prend la version
américaine,
la version originale, c'est parfait. Hein. Pourquoi ce choix, ça vous rappelle des situations familiales ou pas?
Non, pas du tout, justement. J'ai une famille, tout ce qui est plus normal, et c'est aberrant, carrément. Quand je regarde ça, je me dis... On ne peut pas y croire. Et pourtant, en fait, ils arrivent
vous
à rendre crédible.
Vous le racontez dans le livre, ça, hein, que vous avez une famille plus que normale au départ.
Oui. Une jolie famille, des parents qui sont heureux de vivre, d'être là. Donc c'est un beau modèle. Un beau modèle que parfois j'avais du mal à suivre. Donc finalement, j'essayais de... Comme je me suis rendu compte très vite que j'étais un peu loin de ce modèle, bah pour justement pas échouer à essayer de ressembler, j'ai été à l'exact opposé, on va dire, par exemple, de ma mère.
Oui, et alors, est-ce que vous pouvez rassurer tous les parents du monde quand votre adolescent ou votre adolescente fait des bêtises, il peut quand même s'en sortir dans la vie. Rose en est l'exemple. Est-ce que vous pouvez juste, en quelques mots, raconter l'adolescente que vous étiez ce que vous racontez à la fois dans l'album et dans le livre.
Honnêtement, c'était rien à côté de ce que j'étais en adulte. Je pense que mes parents auraient eu plus de soucis s'ils avaient su. Ils auraient eu plus de soucis de 30 à 40 que de 15 à 25. Mais non, j'étais un peu rebelle et en fait, j'ai jamais supporté qu'on me dise quoi faire. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit à l'école ou mes parents, quoi que ce soit, j'ai jamais supporté que quelqu'un décide de ce qui était bon pour moi ou pas. Je déteste qu'on me dise crois mon expérience. Oui. Je sais ce que c'est. Voilà, ils essayent, les parents, forcément, je le sais, je suis maman. Mais je sens que je ne vais pas être comme ça. Je n'ai pas ce truc-là de vouloir imposer mon expérience parce que l'expérience, mais par essence, c'est toi qui dois la vivre, en fait. Oui. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller essayer d'expliquer ton expérience à quelqu'un. Parce qu'en plus, on n'est pas les mêmes personnes. Ton expérience ne va pas aller avec la mienne. Enfin, ça n'a pas de sens. Et j'ai voulu vivre vraiment tout pour comprendre toute seule. Il fallait que je me brûle vraiment comme un enfant pour savoir que ça brûlait.
Olivier Pousse.
Oui, qu'est-ce qui, chez vous, était le moteur, justement, de la reconstruction et de la sortie de tout ça? Parce que chacun, là aussi, c'est très personnel. Et chez vous, qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Franchement, c'était que le choix était simple, en fait. On a parlé du livre de Lionel tout à l'heure. J'avais l'impression que j'allais vraiment mourir. Donc, soit je décidais vraiment d'y aller. Donc, c'était un choix.
Certains l'ont fait.
Voilà. Soit si c'était tellement une souffrance de vivre que c'était soit j'arrêtais, soit justement je faisais en sorte que ça ne soit plus une souffrance. Et c'était des petits pas, vraiment. Ça a été vraiment des petits pas. Et chaque pas a amené un autre. Et c'est le fameux cercle vicieux que je venais de vivre. C'est inversé et c'est devenu un cercle vertueux. Mais il a fallu évidemment ce déclencheur. C'est peut-être voir la mort de trop près. Et puis d'envisager peut-être en imaginant ma mort, en imaginant peut-être la vie qu'aurait mon fils si j'étais plus là, c'est ça, le déclencheur, oui.
Rose, vous écrivez dans le livre « Être aimée a toujours été mon objectif, rester la préférée deviendra une obsession », c'est au début du livre. Au fond, est-ce que tout ça, c'est pas ça, c'est une question de désir, le désir d'être aimée, le désir d'exister à travers le regard de l'autre, que ce que vous racontez à la fois dans l'album et dans le livre.
De toute façon, le désir pour moi, c'est le
moteur.
Ouais, c'est le moteur. Je suis un peu spinoziste. Il n'y a pas, on peut pas enlever quelque chose de mauvais dans sa vie sans vouloir le remplacer par quelque chose de plus fort qui est positif. Et oui, le désir, c'est hyper important. Le désir d'être là, le désir d'être en vie, le désir d'être aimé, d'aimer. Je pense que c'est le moteur. Après, être aimé a toujours été une obsession, c'est vrai. La préférée, c'est vrai que ça, j'ai compris bien plus tard que c'était au-delà d'être aimé. C'est-à-dire que j'aimais pas qu'on préfère quelqu'un à moi.
Oui. Ouais. Avec un peu de jalousie qui vient s'immiscer dans tout ça. On parlait d'écran il y a quelques secondes en parlant de la série Shameless. Eh bien, de mon côté, je voulais vous faire partager aussi un coup de cœur pour un programme à regarder sur le web. On va parler d'une femme forte encore. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. C'est la vidéaste et comédienne OGG qui s'est associée à l'INA pour produire une série de pastilles qui est intitulée Virage INA. L'objectif, en fait, est de revenir à la fois sur les mouvements et sur les lois qui ont jalonné le droit des femmes au cours du XXe siècle. Exemple, la loi Veil qui donne le droit aux femmes d'avorter en 1975, extrait.
Le débat qui a précédé le vote de la loi a également été ponctué par des attaques violentes, parfois même absolument sordides.
Vous avez des pancartes que j'ai eu le temps de lire sur lesquelles il y avait « Veil Hitler, même combat ». Alors là, je ne peux pas ne pas répondre.
Simone Veil ayant survécu au camp de concentration, le parallèle était carrément nauséabond.
Et je dirais à ceux qui se portaient ces pancartes, même s'ils sont sortis, mais je souhaite qu'ils m'entendent, c'est que ce sont eux qui sont des nazis et que j'en ai la preuve par le courrier qu'ils m'adressent.
Ce sont des chroniques extrêmement bien réalisées. Elles sont enrichies évidemment grâce à l'INA et puis surtout formidablement bien racontées par OGG, dont nous avions déjà évoqué le travail sur YouTube avec une série que je vous recommande aussi qui s'appelle Virago. C'est des portraits de femmes remarquables et qui sont peu connues. C'est à la fois drôle et intelligent et c'est gratuit et c'est à voir sur YouTube. Est-ce que vous traînez un peu sur YouTube, Rose?
J'essaye de plus traîner sur rien, en fait. Voilà, donc c'est dur, hein. Je vous avoue, c'est très dur, mais en fait, j'essaye de plus être passive. Donc en fait, en étant passif... On subit.
On est beaucoup sur les réseaux, c'est vrai.
Sur les réseaux, sur Internet, tout simplement. Donc, c'est vrai que parfois, on a une volonté active d'aller chercher quelque chose qui nous intéresse, mais malheureusement, on est redirigé immédiatement vers des conneries. C'est facile, en fait, de se laisser diriger vers tout ça.
Alors après, il y a des très jolis moments. Par exemple, vous voyez Florence et Littérature sur Twitter qui vient nous envoyer un message et qui nous dit... Pouvez-vous dire à Rose combien sa chanson « Mais ça va » m'a sorti d'un immense chagrin? Et puis un jour, on passe à autre chose, on ouvre nos paupières closes un matin. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ça va. Comme quoi, les chansons, ça peut sauver aussi des gens.
Mais c'est vrai que cette chanson, je l'ai écrite en 2011.
parce que j'avais eu déjà des phases dépressives quand même, des moments un peu plus bas et tout ça, mais jamais connu ça, comme en 2016, jamais. Mais j'avais déjà vécu ce truc-là, que soudain, on ne sait pas comment, mais parce qu'on a quand même enclenché quelque chose, encore une fois, d'actif, de positif, on essaye en tout cas. Et petit à petit, c'est vrai que la vie reprend ses droits, et la vie, normalement, elle est plus forte que tout. Hein.
Ouais,
et
puis elle est très chouette, la vie.
Non, non, franchement, je ne suis pas pour dire la vie est belle en permanence, mais en tout cas, je trouve que ça vaut la peine.
Ça vaut la peine, exactement. Vous allez voir, on va se marrer. Je vais vous présenter un garçon qui est totalement mythomane, il s'appelle Ben H, et il veut venir parler de Nice. Je pense qu'il prend un risque,
risqué,
le garçon.
Très risqué.
Ben H,
ouais.
Déjà, ça me plaît.
Ouais, à suivre dans un instant sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
Mais oui, on prend le temps et on se détend. Et il est 9h53 sur Europe 1. Jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invitée, la chanteuse Rose. Ouais. C'est des réflexes pavloviens en fait. C'est l'arme à paillettes dès qu'on dit Rose en fait. Rose, je vous présente Ben H, c'est le jeune homme à la casquette qui est devant vous. Il est censé nous faire voyager cet été avec ses cartes postales mythomanes. Je précise, mythomanes. Vous revenez d'où ce matin, Ben H?
Eh bien, bonjour le club, bonjour Rose, bonjour Eva.
Bonjour.
Eh bien, ce matin, carte postale un peu délicate pour moi, si je veux garder mon boulot. Je vous pose le contexte, Rose. Hier soir, j'appelle donc Eva Rock vers 19h. Allô Eva, excuse-moi de te réveiller.
Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Elle me répond, t'es fou de m'appeler si tard. C'est un soir de semaine. Je lui demande, Eva, tu me confirmes que je suis totalement libre pour mon sujet, je peux dire ce que je veux dans l'émission. Elle me répond, évidemment, t'es humoriste, totale liberté d'expression avec moi, Ben H, tu commences à me connaître, je suis cool, tu dis ce que tu veux. Confiant, je lui affirme alors, ok, parce que demain, en l'honneur de notre invitée, Rose, je veux parler de Nice. Là, Eva me coupe et se transforme en prof d'art plastique qui vient d'apprendre qu'elle est mutée en zone d'éducation prioritaire. Je la cite. Quoi ? Qu'est-ce que tu vas dire sur Nice ? Je te préviens, tu dis pas n'importe quoi. Je connais du monde là-bas. Tes petites blagues, tu les fais sur Roubaix ou Amiens. Je m'en fous. Mais sur Nice, les seuls comiques qu'on tolère, c'est Mado la niçoise et Christian Estrosi.
Ouais, n'importe quoi. Non, non, mais évidemment, c'est n'importe quoi. J'ai jamais dit ça.
Du coup, Rose.
J'ai jamais dit ça.
Non, bien sûr, bien sûr. Du coup, Rose, le club, chers auditeurs, Eva Rock, sachez que je serai parfaitement objective dans cette carte postale niçoise et que ma patronne, qui anime ce formidable club de l'été, n'est en aucun cas intervenue dans sa conception.
Jamais.
Je resterai libre, objectif et juste. Hein, c'est pas parce que la chronique est niçoise qu'elle doit forcément raconter des salades.
Ah, ouais, bravo, bravo. Alors, bien sûr. Parlez-nous donc de cette magnifique ville de Nice en toute liberté, Ben H.
Eh bien, croyez-moi, c'est très librement que je vais en parler dans des termes élogieux, tout comme de toute la région. D'ailleurs, ne comptez pas sur moi, Eva, pour tomber dans les clichés. Par exemple, hors de question de dire sur cette antenne que depuis quelques années, hein, dans la région, culturellement, on est quand même passé de Marcel Pagnol à Kim des Marseillais à Mykonos. Eh bien, ça, typiquement, je ne le dirai pas. Cliché.
Bah, c'est Marseille. C'est pas Nice de toute façon, voilà. Et vous ne le direz pas.
Non, je ne le dirai pas. Pas question de parler de la moyenne d'âge dans la région non plus, qui ferait passer le public de Motus pour une bande de gamins prépubères.
Ah non, ça non plus, vous
non,
pouvez pas
ça
dire non
je
plus.
Le dirai pas. Non, non. Alors ne comptez pas sur moi non plus pour réduire Nice aux cagoles niçoises, car nous avons deux preuves ici que les niçoises ne sont surtout pas que ça. Hein, Rose, cela s'entend dans votre musique. Hein, quant à Eva Rock, je crois que je vais me chercher du boulot.
Bah, voilà, voilà, continue. Ouais, parce que ça commence franchement à être une
ouais,
chronique.
Viva, viva Nissa la Bella, hein, disent les paroles de la célèbre chanson devenue l'hymne de tout un peuple aussi bouillant que le climat de la région. Il suffit de se promener dans le vieux Nice, il suffit de flâner sur la promenade des Anglais, il suffit de goûter une pisse saladière avec vue sur la baie des Anges pour réaliser que la beauté de Nice est indescriptible. Eva, en une carte postale, il me faudrait au moins un poster géant pour le faire. Et tout ça, bah, pour une fois, c'était pas n'importe quoi et pas besoin d'Eva Rock pour être vachement sympa. Merci.
Ouais, merci. Alors on est bien d'accord que votre carte postale mythomane n'est pas toujours mythomane.
Pas toujours, pas toujours. C'est
la fin,
Nice,
elle était bien, c'est vrai. Hein. Ouais. Ouais, merci Ben H, mais presque fait plaisir.
Ah. Ouais, vendredi alors.
Ouais, à vendredi, bien sûr. Rose, nous devons faire donc le clair sur la situation. D'abord, jurez-vous que vous êtes née à Nice?
Oui, je le jure.
Jurez-vous que
à
vous
Santa Maria.
Ah, moi aussi.
Eh bah oui, comme
clinique
tout le monde.
Clinique de
croit.
Santa Maria. Il y en a c'est incroyable. Clinique,
non, non, je crois tout le monde.
Non, elle est fermée. Elle est fermée.
Pour maintenant, français, c'est l'enval.
Ouais.
On va vous laisser.
Jurez-vous que vous aimez cette ville?
Je le jure.
Vous pouvez jurer également que je ne vous ai pas soudoyé pour que nous évoquions cette ville.
Non, vous ne m'avez pas soudoyé.
Ah, j'ai eu peur que vous mentiez. J'ai eu un doute dans votre regard. Je me suis dit non, elle va dire n'importe quoi. Eh bien, je vous propose de partir pour Nice dans quelques minutes sur Europe 1 et en direct. Allez.
Mais c'est pas vrai ce chauvinisme.
«
9h-11h, le club de l'été. Eva Rock.
Et oui, c'est déjà la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour aller traîner du côté des meilleurs festivals, mais aussi dans des lieux sublimes et chez des professionnels qui embellissent nos assiettes. N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité. Alors d'ailleurs, à ce propos, on a reçu des messages sur Twitter. Rose, j'ai dit une bêtise, Shameless, la version originale, c'est la version britannique et la version américaine, bah, c'était, voilà, c'était
celle de,
c'est celle qu'on aime
copie.
Beaucoup,
c'est
mais c'est une copie, exactement, la version originale et bien la version anglaise. Merci beaucoup de nous avoir alerté sur Twitter. Et puis, vous avez reçu aussi un petit message d'un garçon qui s'appelle Nance et qui connaît très très bien la musique et qui nous dit « Pour moi, Rose, c'est l'auteur-compositrice la plus douée de sa génération et de loin, et elle mérite plus que ce qu'elle a. » Voilà, ça fait partie des très jolis messages.
J'ai l'impression que je connais ce personnage que parce que ce prénom est rare.
Ce prénom est rare et c'est un prénom du sud encore.
Je l'embrasse.
Voilà, on l'embrasse, exactement. Rose, je vais vous proposer de monter à bord d'un, pas d'un train, mais d'une machine de téléportation pour aller du côté de Nice.
Une DeLoréal.
Une DeLoréal, exactement. Et c'est Lise Pressac qui va nous emmener direction le sud. Mon sud ce matin, Lise, et on va visiter quoi exactement?
À environ 50 km de Nice, 40 km d'Antibes, sur le plateau de Cossol, on va observer les étoiles.
Et oui, on évite un peu la mer pour faire pas trop cliché. Voilà. Et Olivier, est-ce que vous savez vraiment de quoi on va parler ce matin?
Ah ben, j'espère bien que je le sais, puisque vous me l'avez imposé hier, également aussi sur les coups de 19h, hein, avec un coup de téléphone non
discutable.
C'est
son heure, en fait. Hein.
Donc, Olivier, je viens de me réveiller. Et donc, demain, c'est la Soca. Il n'y a pas d'autre choix.
Ah oui,
que des merdes.
Et voilà. Si vous en avez trouvé.
Non, jamais. Robin, qui réalise cette émission, vous viendrez me voir à la fin de l'émission. On a deux mois à dire, Soca Dance en musique. Non, mais je rêve.
Donc, évidemment, on va parler de la Soca et tant qu'à faire de la meilleure Soca de Nice.
Ah, je sais.
Je vous ferai un petit vrai-faux. On va reparler du riz parce qu'on avait la salade de riz hier. Est-ce qu'il faut laver son riz avant de le cuire et de le manger? Est-ce que c'est un passage obligatoire? Et puis, je vous emmène encore en pique-nique en fin d'émission avec une petite idée recette rafraîchissante parce qu'il fait chaud.
Il fait très chaud.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
Rose, je vous propose de monter à bord de notre machine à remonter le temps. Alors, elle est un peu spéciale, cette machine, elle ne pense que musique. Voilà, c'est comme ça. Savez-vous, par exemple, quelle chanson tournait en boucle en 1978, année de votre naissance? Qu'est-ce qu'on écoutait sur les radios, d'après vous?
Non, franchement...
C'est fait exprès pour vous. Écoutez, c'était ça.
By the rivers of Babylon.
C'est pas disco, ça?
Ah ouais,
Bonnie M.
Ça, c'est Boule à paillettes. Hein.
C'est Boule à paillettes.
Boule à paillettes, Boule à facettes, l'arme à paillettes.
Boule à clochette.
Et Boule à
clochette. Vous étiez faite pour écrire une chanson disco. Vous voyez, finalement, il n'y a pas de hasard. En 2006, premier album, premier tube, La Liste. Pendant l'été, c'est une autre chanson qui envahit nos oreilles. Bon,
alors,
c'est pas trop un cadeau. Vous êtes prête? On parlait foot cet été-là. Pas la Coupe du Monde, hein, mais on entendait ça
les
sur
bleus. Les bleus. Zidane. Zidane, il a frappé en même temps.
Oui, il a frappé, c'est vrai. C'était en 2006.
Je me rappelle pas, je n'entendais que moi.
Oui, c'est vrai, mais aussi. Et enfin, en 2011, vous donnez naissance à votre fils, Solal. Est-ce que vous savez quelle chanson était martelée sur les ondes à l'été, hein, 2011?
Alors, c'est faux parce que je devrais m'en rappeler, parce que souvent, c'est une année importante quand même.
Personne ne s'en souvient jamais.
Moi, j'écoutais Achat en boucle, alors.
Ouais,
voilà.
Mais en fait, on écoutait ça sur les radios.
Ben oui, non, mais c'est fou. En fait, c'est complètement fou, je suis idiote. La nounou de mon fils, qui était africaine, elle lui chantait ça toute la journée.
Mika, elle me dit.
Eh ben Bibiche, voilà. Si tu nous entends. Elle s'appelait Bibiche, c'est la raison principale de l'embauche.
La pop ensoleillée, la pop ensoleillée de Mika. Est-ce que vous avez une chanson Madeleine de Proust? Une chanson soit de votre enfance, soit une chanson, dès que vous l'entendez, vous avez une émotion particulière.
J'ai une chanson, mais je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas une chanson de mon enfance, c'est Eye in the Sky de Alan Parsons Project, et qui me rappelle des choses importantes, qui me bouleversent un peu, je ne sais pas, ça me fait penser à mon histoire d'amour avec mon fiancé actuel, et à mon père aussi, qui est une chanson pour lui qui lui donne des forces, j'ai l'impression qu'il
l'accompagne. Il adore la musique, hein, votre
mon
papa.
Père,
hein.
Mon père est un grand fan de musique, ouais. Enfin, c'est cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je pense que la musique fait plus partie de sa vie que moi.
Mais vous le racontez dans le livre, vous le décrivez avec sa guitare en train de faire des accords sur la terrasse, il vous fait baigner dans sa musique.
Oui, il nous fait croire qu'il compose des chansons, oui.
Et pendant longtemps, vous avez cru quoi?
Que Imagine, c'était de lui, ouais. Et je serais riche, là. C'est malheureux, c'est très malheureux. Ah, merci Robin.
Oui,
mais ça,
Robin.
Mais Robin, on l'aime, hein.
Ouais.
On a une passion pour
moi,
j'ai une passion pour Robin personnellement. Ouais. Hein.
On l'adore. Merci beaucoup Robin, en vrai. Merci pour la réalisation de cette émission. Eh bien, je crois qu'il est temps de quitter la chaleur caniculaire de Paris pour la douce chaleur de Nice. Il fait toujours doux à Nice. À tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h-11h.
Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h12 sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invitée, la chanteuse Rose. Rose, dans quelques minutes, on va partir à Nice. Est-ce que ça vous ennuierait de lire ce que vous écrivez sur Nice dans votre livre? Vous voyez, à peu près à ce niveau-là.
Là, c'est la première fois que je fais ça, c'est incroyable. Ben oui.
Alors, vous voyez à peu près
où ça? Bah non, hein, en bas, Nice est une ville géniale. Oh non, c'est méchant.
Allez-y.
Nous habitons une petite résidence dans les collines de Nice avec un terrain de tennis, une piscine, un petit parc dans lequel je fumerai en cachette mes premières cigarettes. Nice est une ville géniale pour les enfants et pour les personnes âgées. Entre les deux, on s'y sent bien autant qu'on s'y ennuie. Nice, une pizzeria géante avec ses odeurs, ses accents, ses couleurs. Les rues ensoleillées portent des noms semblables à ceux des pizzas. Giuffredo, Paganini, Cassini, Rossetti. Des sonorités qui volent joyeusement comme l'enfance.
Merci beaucoup. Hein. Vous voyez
écoutez. Ah non, ce qui est le plus drôle, c'est à Nice, ça pègle lorsqu'il fait chaud.
Mais oui,
on fait sa douche, on fait de l'essence, on cale en ville et on sort dans le vieux. On prononce des hauts. Ouvert, de sorte que les mots comme rose chantent d'eux-mêmes mais perdent un peu de leur beauté et sonnent soudainement très bon marché. Mais je ne m'en rends pas compte.
Mais moi non plus, hein, je ne m'en rends pas compte, évidemment. Rose, on va, avant de rejoindre la Baie des Anges, on va écouter Dispressa qui va nous présenter quelques idées de sortie pour ce soir et pour les jours à venir. On va commencer par un détour par le musée Guimet à Paris.
Oui, pour aller visiter l'exposition Bouddha, la légende dorée. Les grandes étapes de la vie du Bouddha sont retracées depuis, je ne sais pas, je savais pas que ça vous plairait, mais depuis sa naissance dans le parc de Lumbini au sud du Népal jusqu'à sa totale extinction à Kushinagara dans l'état indien de l'Uttar Pradesh. L'exposition confronte les différentes représentations du Bouddha dans les différents pays d'Asie, de l'Afghanistan au Japon et de la Chine à l'Indonésie. Elle retrace également les circonstances de l'apparition du bouddhisme en Inde aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, 4e religion au monde en nombre de fidèles derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Il a fallu 4 ans au musée Guimet pour préparer cette exposition qui présente 159 œuvres au total. L'exposition Bouddha, la légende dorée est à voir donc au musée national des arts asiatiques Guimet jusqu'au 7 octobre.
Vous prenez votre billet ?
Bah, je suis en train de noter.
Je suis sur le site. Si seulement je savais comment noter sur son portable. On reste au musée Guimet d'ailleurs pour une exposition alors d'un tout autre genre. Oui. Ça, c'est la musique qui met la pêche tout de suite.
On se dandine. Non, Pharrell Williams ne s'est pas mis à la peinture, mais il s'est improvisé commissaire d'exposition en invitant un Mister, c'est un artiste japonais, à présenter ses œuvres sous la coupole du musée Guimet. Alors, cet artiste peint des enfants aux yeux grands ouverts, comme ceux qu'on voit dans les mangas japonais, vous voyez. Une véritable explosion de couleurs avec des installations, des tableaux, des sculptures, mais avec derrière un message politique. L'exposition est intitulée A Call to Action, un appel à l'action. Il aborde les questions politiques, environnementales et technologiques de nos jours, avec l'idée que les enfants sauront prendre de meilleures décisions que les adultes pour créer un avenir meilleur. L'exposition est visible sous la coupole du musée Guimet à Paris, donc jusqu'au 23 septembre.
Donc deux bonnes raisons d'aller dans ce lieu. Et enfin, Lise, vous nous emmenez passer une nuit blanche.
Plusieurs nuits blanches au Toronnet, dans le Var. Rendez-vous sur la place du village où aura lieu vendredi, samedi et dimanche prochain le festival Les Nuits Blanches. Avec vendredi, le groupe Kolinga et le formidable rappeur congolais Baloji. Samedi, vous pourrez voir Aloïs Sauvage et les jumelles franco-cubaines IBI. Dimanche, vous avez un autre rendez-vous avec la jeune rockeuse malgache Christelle et la tout aussi jeune et talentueuse Oshi.
Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté.
On l'a beaucoup écouté l'été dernier pendant le club.
Oui, c'est vrai. Le festival Les Nuits Blanches est porté depuis plus de 20 ans par une association qui récolte grâce à ce festival de l'argent pour aider une autre association, Enfants du Monde, qui œuvre notamment pour les enfants au Burkina Faso. Le festival Les Nuits Blanches est à partir de vendredi, ce vendredi, au Toronet, dans le Var.
Rose, est-ce que vous avez le temps d'aller dans des musées, dans des festivals, de vous cultiver en allant au cinéma? On a compris que vous n'aviez plus beaucoup lu ces derniers temps.
Je lis beaucoup. En fait,
vous ne lisez pas de romans, c'est ça.
De la philo.
J'ai un problème avec les musées. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai noté là immédiatement. Merci, Lise. Mais depuis toute jeune, en fait, je pense qu'aussi, on ne m'a pas amené beaucoup au musée. Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait. Je ne sais pas, à Nice, on allait à la plage et on allait à la campagne. On avait une vie dehors. Ce n'est pas comme à Paris. Et je suis arrivée à Paris en me disant, je vais faire des musées. Et j'en fais pas.
Ah, mais tout le monde se dit la même chose.
Non, mais j'ai honte. Je ne connais rien. Je suis très, 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 très mauvaise dans ce domaine. Donc non, je vais au cinéma, oui. Je vais à des concerts. D'ailleurs, on vient d'entendre Oshi, j'ai été la voir le mois dernier. Je vais à des concerts énormément et puis j'écoute beaucoup de toutes les nouveautés, tout ce qui sort. En fait, je suis très curieuse de la musique qui se fait.
Et vous êtes copain, copine avec les chanteurs et chanteuses de votre génération,
oui.
Des Hoshi, des gens comme ça.
Bah,
vous...
C'est ma génération quand même, pas la pauvre.
Elle est beaucoup plus jeune.
Non, mais je suis amie avec, je sais pas, par exemple Elodie Frégé, Julie Zenati. On est un petit groupe de quarantenaires. Ça va être méchant pour elle parce qu'elle a 39 ans, Elodie.
Oui.
Mais en tout cas, non, on est je connais un peu ce monde-là. Ces filles-là, on est assez copines, c'est cool.
Dans quelques instants, on va partir à Nice. Quand on vous dit le mot Nice, quelle est la première image qui vous vient?
Franchement, c'est quand j'arrive, j'atterris, c'est la vue de l'avion, première image, et puis la promenade des Anglais, vraiment. C'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qui, pour moi, est plus beau, la baie des Anges, voilà, magnifique. Et après, je pense immédiatement au Vieux-Nice.
C'est vrai, ouais. Nice, on parlait du cours Saléa hier, et c'est vrai quand vous arrivez en avion, c'est très rare en France d'arriver comme ça, on a l'impression qu'on va atterrir sur la mer.
Ouais, exactement, c'est un bras
de impressionnant.
Terre. Ouais. Ouais,
un bras de terre sur lequel est posée la piste et sur laquelle se pose l'avion.
Oui, voilà. Merci pour cette précision.
Mais oui. Là, vous voulez tenter de faire un petit tour. Et si l'avion tourne dans le ciel, c'est parce qu'il faut qu'il aille dans le sens du vent et qu'il se pose de l'autre côté.
Tout à fait, c'est pas parce qu'on va tous mourir.
Oui, mais l'arrivée fait assez peur, moi, je trouve.
Oui, oui, à Nice, c'est celle qui fait peur.
Mais même les pilotes, ils ont peur, pour vous dire.
C'est pas très rassurant.
Et on applaudit toujours à la fin. C'est très important de savoir qu'on a réussi à se poser.
C'est notre côté un peu niçois, ça. Avant de partir en balade, donc non loin de Nice, une parenthèse musicale avec Sheryl Crow qui chante All I Wanna Do sur Europe 1. Sheryl Crow sur Europe 1, Lise Pressac, elle date de quand cette chanson?
94 et on a tous pris un gros coup de vieux.
Et bien voilà, on part tout de suite sur Nice. A tout de suite.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Il est 10h23, nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Si vous entendez des gens manger, il s'agit de Rose, notre invitée, et d'Olivier Pouls, qui sont en train de goûter ce que j'avais décidé de garder pour la fin de l'émission. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'ouvrir le paquet des chips à la soca.
Vous n'allez pas le mettre dans le studio.
Bah oui, mais enfin, vous auriez bien pu tenir un petit peu. Allez, Vous êtes tous vous êtes tous les invités de ce club qui est ouvert tous les matins de 9h à 11h.
Ça fait voyager ça tout de
voilà.
suite.
Et au cours
dès
de
la première bouche.
Voilà. Au cours de cette deuxième heure, vous allez passer de découverte en gourmandise. Vous allez pouvoir le constater. Dégustation en vue avec Rose, évidemment. Et grâce à vous, Rose, on part pour le sud. Sauf Lise, que vous avez choisi de prendre de la hauteur et de nous en mettre plein les yeux ce
Mais
matin.
Mais oui, on va un peu sortir de la promenade des Anglais. On va à environ 50 km de Nice, 40 km d'Antibes. Sur le plateau de Cossol, c'est ici que se trouve l'Observatoire de la Côte d'Azur, installé sur le plateau de Calerne, dans un espace semi-désertique de 20 km². Nous sommes en ligne avec Philippe Sty, qui est directeur de recherche au CNRS, un passionné et un grand connaisseur de ce site. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors décrivez-nous ce lieu qui semble vraiment hors du temps.
Bah, c'est effectivement un lieu vraiment magique, hein, où on peut aller facilement en famille avec les enfants, les parents, les petits-enfants pique-niquer. C'est surtout un lieu en altitude où il y a un ciel extrêmement pur, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, donc pas d'éclairage. Et donc on peut y voir vraiment les soirs d'été des milliers d'étoiles au-dessus de la tête, des étoiles filantes. Et puis donc c'est là-haut aussi où on a installé toute une série d'instruments scientifiques et de télescopes.
Et c'est parfait pour les soirs de canicule, Philippe, c'est ça ?
Exactement, on est à 1100 mètres, on est à 1100 mètres d'altitude et donc ouais, il fait en permanence vraiment au plus chaud là, il doit faire une vingtaine de degrés, donc c'est vraiment super.
Le bonheur.
Ouais, le bonheur.
Et vous le disiez, alors ça a été inauguré en 1974, à l'époque c'était vraiment destiné, c'est une sorte de laboratoire en fait par rapport justement à tous ces instruments et notamment l'interféromètre. Qu'est-ce que c'est l'interféromètre ?
Alors l'interféromètre, c'est quelque chose qu'on a inventé effectivement en partie hein, à Cossol, à l'observatoire. Autour de deux instruments qui s'appelaient I2T, un petit interféromètre, et après un grand instrument avec des télescopes d'1,50 m. Et en fait, ça consiste simplement à fabriquer des grands télescopes gigantesques à partir de petits télescopes et à recombiner la lumière de ces petits télescopes. Et alors, à Cossol, on avait comme ça à l'époque l'équivalent d'un télescope d'une trentaine, quarantaine de mètres, ce qui n'existait pas nulle part ailleurs, hein. Et on a développé ces techniques-là qu'on a maintenant installées sur des grands observatoires, notamment au Chili, donc où il y a non plus des télescopes d'un mètre maintenant, mais des télescopes de 8 mètres. Et on recombine la lumière de ces télescopes de 8 mètres comme on a pu l'inventer en fait à Cossol.
Et si je me souviens bien, Philippe, si pour avoir visité le site à plusieurs reprises, ces petits télescopes, ils étaient placés sur des rails, c'est ça, hein, pour les faire bouger, hein, ouais.
C'est ça, ouais. Donc on avait tout un système de rails qui permettait donc de changer en fait la taille de ce télescope virtuel entre, on va dire, une dizaine de mètres et jusqu'à 40 mètres. Et on les avait mis effectivement sur des rails pour les déplacer. Et puis si vous êtes allé les voir, vous avez vu que ça ressemble plutôt à des bouteilles d'Orangina. Ces télescopes, c'était assez original.
Et est-ce qu'avec la traditionnelle nuit des étoiles filantes au mois d'août, ça va se concrétiser par des événements pour vous au plateau de Cossol ?
Alors il y en a eu un très récemment, c'était dans le cadre du premier homme sur la Lune.
Oui, hein, on a le dimanche dernier,
voilà, dimanche dernier, on avait fait toute une opération pour observer la Lune notamment. Il faut savoir aussi que là-haut, donc il y a un laser, je pourrais vous en parler un peu plus tard, si vous voulez, qui tire sur la Lune en permanence. Hein. Mais sinon, au mois d'août, il n'y a pas vraiment d'événement, mais par contre, le plateau se visite tous les jours et puis il est libre d'accès. Donc le mieux pour observer les étoiles filantes au mois d'août, c'est de monter là-haut avec une chaise longue, de s'allonger et puis de regarder le ciel.
Et alors, j'espère ne pas spoiler la chronique de Lise, mais la suite, en tout cas, il y a des applications maintenant, notamment Skyview, qui sont très intéressantes quand on est justement face au ciel. On ne sait pas très bien comment s'appellent les étoiles. Et en pointant le téléphone sur un certain nombre d'étoiles, tac, le nom apparaît.
Exactement. Alors ça, c'est vraiment un bel outil aussi quand on connaît pas trop, on sait pas trop où se repérer. Ça montre les étoiles. Alors les étoiles, elles bougent pas trop hein, dans le ciel, donc les constellations, c'est assez facile à repérer. Mais ça montre aussi tout ce qui se balade, toutes les constellations de satellites, notamment de télécommunications, la station spatiale. Ça peut montrer aussi les planètes, donc qui se déplacent. En ce moment, on voit bien Jupiter, Saturne dans le ciel. Donc c'est vraiment une application à avoir dans la poche pour pouvoir effectivement se repérer dans le ciel.
Bah on va venir vous voir, hein, Philippe, hein, je crois,
avec notre chaise longue. Ouais, merci beaucoup, merci Philippe Sy d'avoir été. Vous amener à la Soca. Oui, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous recommande vraiment cette balade sur le plateau de Cossol. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller avec votre fils, Rose, mais ça fait rêver les enfants. Et puis, vous avez des garçons comme Philippe Sty qui sont des très bons vulgarisateurs et de très bons pédagogues pour vous expliquer ce que c'est que l'astronomie. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et passionné d'astronomie, Philippe Sty. Toutes les infos, elles sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Lise, vous nous postez tout ça sur le compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Et Olivier Pouls, de l'astronomie à la gastronomie, il n'y a qu'un petit pas. On se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
C'est la suite du Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est notre invité ce matin. Et Rose, Rose, est-ce que vous êtes du genre gourmande? Je ne sais même pas pourquoi je pose la question, puisque le paquet de chips a disparu quasiment. Vous êtes gourmande ou pas?
J'adore. En fait, la soca, c'est un de mes aliments préférés, en vrai.
Et voilà, moi aussi.
Alors, les chips de soca, c'est, pour moi, c'est l'invention du siècle.
Hein. Et oui, parce que c'est un peu Nice qui arrive jusqu'à Paris.
Exactement. Ouais. Et c'est le seul endroit où on peut en manger. Moi, j'avais un endroit magique à Paris où je pouvais en manger. C'était au marché des Enfants Rouges. Il y avait un monsieur qui faisait des planches de soca. Mais c'était rien à voir avec la meilleure. J'imagine que tu vas nous en parler.
Mais ah ben,
oui, on va vous parler de la meilleure soca de Nice, oui. Évidemment. Oui.
Alors allez-y, Olivier.
Est-ce qu'elle est validée par Eva Rock? Je veux d'abord savoir.
Alors là, moi, je valide 100% avant même que vous disiez le nom du lieu où on va aller la manger.
On va chez Pipo.
Mais oui.
Vous savez, chez Pipo, c'est l'institution pour la soca et nous allons retrouver Steve Bernardo. Alors, il y a une histoire incroyable, c'est que Steve, il a commencé comme serveur et puis depuis 10 ans, c'est chez lui.
C'est chez lui.
C'est chez lui, chez Pipo. Bonjour,
c'est
Steve.
C'est chez Pipo, bien sûr.
Bonjour à tous.
Bonjour, c'est derrière le port de Nice, rue Bavastro.
J'allais le dire, mais bon, je ne voulais pas te voler cette information.
Est-ce que les premières planches de soca sont sorties du four ce matin?
Non, pas encore. On démarre à 11h30.
Eh oui, avec l'apéro.
On est tout à fait là. On chauffe le four le matin.
Alors, four à pizza?
Alors, c'est un four à bois. Ça s'apparente à un four à pizza. Et c'est un grand four à bois qui nous permet d'enfourner des grandes plaques de soca.
Alors, Steve, pardon. Oui, c'est ça, Steve.
Oui, pardon.
Je me disais que je me trompais de prénom. Nous, on parle de la soca depuis ce matin parce qu'évidemment, on a grandi avec cette nourriture. Mais les gens, le reste de la France ne sait pas à quoi ça ressemble.
Non, mais ils ne connaissent pas les gens, c'est hallucinant. Je crois que j'en parle,
mais de quoi tu parles? Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots d'abord la recette, ce que c'est et comment vous la cuisez, comment vous la faites?
Alors la soca, c'est une recette à base de farine de pois chiche, eau, sel et huile d'olive. Mmh. Une recette plutôt simple. Après, c'est la cuisson qui est beaucoup plus complexe. On fait une cuisson au feu de bois à une température très élevée et ça donne une galette dorée sur le dessus, croustillante et moelleuse à l'intérieur et très savoureuse.
Alors elle est très fine hein, cette pâte. Hein.
Oui, ça doit être assez fin. Le produit fini doit faire... environ un demi-centimètre d'épaisseur pour qu'il soit le plus agréable.
Oui, toute la difficulté étant effectivement d'avoir et du croustillant et du moelleux. Donc ni trop cuit, ni pas assez cuit. Et on ne l'assaisonne en fait que de poivre quand on la mange.
Exactement. Donc c'est là où réside un véritable savoir-faire, c'est dans cet art de la cuisson.
Et on le mange avec les...
doigts.
Avec les doigts.
Et avec les doigts.
Bon, alors malheureusement, ici, à Europe 1, on n'a pas pu obtenir de four à soca. C'était un peu tôt, le délai de fabrication. Donc, on n'a pas pu faire de soca. Donc, on s'est rabattu sur un autre produit qui est allé nous chercher Eva hier. Et d'ailleurs, je l'en remercie parce que ce n'est pas si mal que ça. C'est des chips de soca, en fait. Donc, forcément, là, il n'y a pas le côté moelleux. Hein, ce n'est que croustillant.
Mais vous évanouissez.
On retrouve le goût.
Steve Bernardo, vous évanouissez quand on vous dit qu'on mange des chips à soca?
Oui, tout à fait.
Non, mais vous validez ou pas? Vous validez quand même le produit ou vous dites non, il vaut mieux venir? Oui, d'accord.
Non, c'est un produit différent, mais c'est une superbe innovation d'un ami niçois, un ancien chef qui s'appelle Luc Salcedo, et qui a développé ce produit dans son restaurant. Et bon, il a rencontré tout de suite un succès auprès de ses clients et il a eu l'idée de produire des chips de soca à plus grande échelle.
Très intelligent.
Parce que ce qui est terrible, c'est que ça ne supporte pas le voyage. On a déjà essayé de m'en rapporter de Nice quand ça arrive à Paris.
La soca,
c'est foutu.
Ça se mange sorti du four.
Mais non, mais moi j'en ai acheté à Paris de ça.
La
vraie soca, on a essayé de l'amener de Nice à Paris et ça n'a pas tenu le voyage dans l'avion.
Non, mais déjà, même une heure, j'ai acheté chez vous de la soca, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'étais à Nice la semaine du 4 juillet, et j'en ai acheté pour aller pique-niquer sur un petit bateau au port, machin. Et en fait, c'est vrai qu'une heure après, c'est pas pareil.
On l'a mangé tout de suite.
La soca, ça se déguste tout de suite à la sortie du four. Voilà. Le produit, gustativement, il se dégrade forcément.
Et alors, il faut préciser que chez Pipo, donc vous ne faites pas que de la soca, mais aussi toutes les autres spécialités niçoises qu'Eva Rock nous a imposées depuis le début de la saison. Donc, la pissaladière, évidemment, la salade niçoise aussi, c'est la vitrine de la gastronomie niçoise chez vous.
Alors, on fait quelques plats incontournables de la cuisine niçoise, mais on reste dans les plats très simples qui font aussi partie de l'esprit de cette cuisine niçoise et qui vont très bien pour la merenda, le casse-croûte que faisaient avant les ouvriers à Nice. et qui s'apparente aussi très bien à des repas de famille ou tout simplement des moments de convivialité entre amis ou voilà, autour d'un verre de rosé en été, c'est très agréable.
Steve, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs combien ça coûte une portion de soca pour qu'ils se rendent compte que c'est vraiment le truc qu'on mange sur le pouce
une
toute heure.
Une portion de soca, chez nous, c'est à 2,90€.
Voilà, 2,90€.
Et je peux vous dire que quand vous l'avez mangé avec un petit verre de rosé,
c'est
vous
parfait.
Êtes bien.
Oui. C'est parfait. Mmh. Merci infiniment, Steve Bernardo, d'avoir été avec nous. La soca de chez Pipo, pour moi, c'est la meilleure.
Merci à vous.
C'est derrière le Vieux Port, c'est rue Bavastro. Ça va, Olivier, les chips, c'est bon. Est-ce que vous pouvez quand même faire votre vrai faux de la journée ou pas du tout hein?
On le fait maintenant ou on le fait tout
maintenant? Non, avalez, puis vous le faites. Hein.
Alors la question, c'était sur l'eau du
riz. Voilà, est-ce qu'il faut rincer le riz avant de le cuisiner? On est d'accord? C'était
oui,
ça.
Qu'est-ce que vous faites?
Vrai ou faux? Moi, je le rince jamais.
Moi, je le rince jamais, non.
Moi non plus.
Eh bien,
Rose, est-ce que vous le rincez votre riz ou pas?
Jamais.
Jamais.
Non, c'est une erreur. Il vaut mieux et il faut le rincer convenablement parce que le riz, d'abord, contient souvent des petites poussières, des petites impuretés qui peuvent s'être glissées dans les sachets. Mais surtout, il est recouvert, on parle de riz blanc surtout, hein, d'une fine pellicule d'amidon. Et en général, c'est cette pellicule d'amidon qui va faire que votre riz va coller. Donc le mieux, c'est effectivement de le laver. Oui, je mange maintenant. Oui. De le laver à grande eau et plusieurs
mais
fois.
Mais avant de le faire bouillir. Hein.
Avant de le faire bouillir, vous le mettez dans plusieurs eaux. Et quand les eaux sont claires, quand l'eau est claire, à la dernière 4 ou 5 passages, vous pouvez le cuire d'accord. De manière tout à fait traditionnelle. Et vous aurez un riz qui va être moins collant, qui va s'égrainer plus facilement au moment où vous l'aurez cuit. Alors, c'est valable pour le riz que vous allez utiliser en accompagnement pour faire une salade, par exemple. En revanche, si vous faites du risotto,
il
ne faut pas le laver parce qu'on a besoin de l'amidon pour garder cette texture crémeuse.
C'est l'amidon
qui dit
plus, hein.
C'est pas le même riz, c'est du riz rond. Et puis, c'est l'amidon qui va donner la texture crémeuse au risotto. On rappelle que dans le risotto, il n'y a jamais de crème ni de mascarpone. C'est l'amidon du riz qui donne la liaison.
Merci beaucoup, Olivier. Rose, est-ce que vous avez une Madeleine de Proust en matière
Là, en fait, il parlait du risotto, c'est la seule chose que je sais cuisiner.
Ah, mais c'est bien, déjà. Ah,
non,
ouais.
c'est parce que c'est le plat de mon grand-père, c'est un risotto au safran. Mais si je dois justement pas réfléchir et penser immédiatement à quelque chose qui viendrait à l'esprit quand je pense à la nourriture, c'est les gnocchis de mon grand-père.
Qui faisait à la fourchette?
À la fourchette, il faisait les pâtes, les gnocchis, le risotto, tout, lui, enfin, à part le riz, mais les pâtes, c'était lui qui le riz, il ne cultivait pas. Non, mais sa pomme de terre, la farine, cette odeur, la sauce tomate qui boue depuis le matin, on la sent en bas de l'immeuble, enfin voilà, c'est ça.
Alors,
c'est
vrai quand on a la chance de manger ce type de produit, c'est même pas la peine d'essayer de les refaire soi-même.
Non, mais même d'aller les manger. Ah non, mais moi, les gnocchis, j'ai essayé une fois, deux fois, je n'ai jamais réussi, sauf à un seul endroit, c'était à Monaco. On avait trouvé un petit restaurant italien et on allait souvent là-bas. C'était les mêmes que mon grand-père. Mais alors, c'est impressionnant, les gnocchis qu'on voit partout, je ne comprends même pas, ce n'est pas du tout ce que je mangeais.
Je vous confirme, ce n'est pas du tout. C'est même la texture est différente.
Mais ça n'a rien à voir.
Le goût est différent parce que, évidemment, il y a, je pense, beaucoup de produits chimiques, en tout cas pour maintenir le produit en l'état, je pense, dans les paquets qu'on peut trouver en supermarché.
Évidemment,
Olivier,
quand on les achète
en sachet, on n'en parle pas, même au restaurant.
Mais même souvent au restaurant, il n'y a pas ce savoir-faire.
Parce que ce n'est pas eux qui les font aussi.
Il y a un grand chef 3 étoiles qui racontait qu'il avait il faisait des gnocchis à sa table régulièrement, qu'un jour il les a mangés en Italie et des gnocchis d'une mama, il les a retirés de sa carte. Il avait honte de ce qu'il faisait.
Franchement, mon grand-père, c'était pas un grand cuisinier. Je pense qu'il avait ce savoir-faire qu'il avait lui-même appris de ses parents. Mais c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, c'était un délice que je n'ai jamais retrouvé nulle part. Il faisait 3-4 plats et c'était un délice.
Oui, mais c'est à ça que ça sert les souvenirs et c'est très bien. Rose, je vous propose de partir à la découverte de 3 nouvelles destinations qui n'ont rien à voir avec Nice. C'est l'Espresso qui est notre grid. Notre guide, à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Eva Rock.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les experts que toutes les émissions de radio envient, Olivier Pouls et Lise Pressac. Rose est notre invitée ce matin et nous en sommes très heureux. Non, je ne dis pas trop. Rose, Lise Pressac, elle réfléchit toujours en 3 temps, une thématique, 3 destinations. Alors vous allez nous dire laquelle vous choisiriez. Ce matin, Lise, nous partons à la découverte de 3 forêts et on va commencer par promenons-nous dans les bois de Paille-Olive pour commencer, c'est
exactement.
Ça Paille-Olive. Oh là là, oh, le remix.
Un sombre remix.
Ah oui, sombre remix.
Une forêt qui s'étend sur 16 km au sud de l'Ardèche, au pied des Cévennes. Ce labyrinthe naturel est traversé par les gorges du Chasse-Zac, qui abrite des chênes blancs et verts et des roches calcaires pétrifiées. Des formes intrigantes qui ont donné lieu à de nombreuses légendes. Le bois de paille-olive est ainsi appelé le bois des fées. C'est un site naturel protégé qui abrite de nombreuses espèces animales et des plantes rares. En bord de rivière, vous pourrez croiser un castor. Et en levant les yeux, vous verrez voler des rapaces tels que le faucon pèlerin ou l'aigle de Bonelli qui niche dans les falaises. Le bois de paille-olive abrite également de nombreux coléoptères tels que le lucane cerf-volant ou la cétoine bleue, quasi unique en France. Ce sont de jolis noms, mais ça reste des coléoptères. Si vous restez jusqu'à la tombée de la nuit, vous aurez peut-être la chance d'observer les chauves-souris qui sortent par des multiples cavités. Il en existe plus de 20 espèces différentes dans ce bois. Tout l'été, des balades d'interprétation sont proposées dans le bois. 1h30 de balades ombragées et d'explications. Et plus d'infos sur ardèche-guide.com.
C'est bien quand il fait chaud. Oui. Direction maintenant les Pyrénées.
Une autre terre de légende, la forêt d'Irati à cheval entre la France et l'Espagne. 2500 hectares en France, 15 000 en Espagne. Dans la mythologie basque, la forêt était habitée par Bajaz Passajon, j'espère que je ne prononce pas trop mal, seigneur de la forêt en basque, une créature poilue et sauvage. Alors vous ne le croiserez pas forcément.
C'est un Olivier Pouls.
Vous verrez des hêtres, beaucoup de hêtres, car la forêt d'Irati est la plus grande hêtraie d'Europe. Ces arbres ont longtemps servi à la fabrication des mâts des navires, mais elle a longtemps été inaccessible et peu exploitée. Elle a donc su préserver une faune et une flore remarquables. De mai à novembre, la forêt accueille les bergers et leurs troupeaux, comme c'est le cas depuis toujours. Des habitats et des nécropoles préhistoriques en témoignent.
Enfin, après les hêtres, les chênes.
Direction la forêt de Troncé, au cœur du bocage bourbonnais dans l'Allier. C'est l'une des plus belles chênaies d'Europe. Elle s'étend sur près de 11 000 hectares, soit la surface de Paris intramuros. Entaillée à maintes reprises, la forêt a fini par reprendre ses droits. Et on y trouve aujourd'hui des arbres âgés de plus de 300 ans.
Hein.
Oui, c'est magnifique, des chênes. Donc, mais également des hêtres et des charmes pour obliger ces chênes à aller chercher la lumière encore plus haut. La forêt de Troncé a été traversée par César. Elle a été réhabilitée sous Colbert, truffée jadis de camps maquisards gaulois et de sites gallo-romains. La forêt a toujours été habitée par des bûcherons, mais aussi par des moines bénédictins qui y ont trouvé refuge il y a 1000 ans. Et toujours en activité, les mérandiers qui façonnent le bois de Troncé pour la fabrication des fûts des plus grands vins de Bordeaux.
Exactement, c'est de là que viennent les bois les plus prestigieux pour faire. Alors Bordeaux, Bourgogne et tous les grands vignobles s'arrachent les bois de la forêt de Troncé parce que ça donne...
J'ai dit des hêtres, j'avais fait exprès. Oui, c'était pour faire une petite blague à Lise Pressac. Pour l'application du jour, Lise, vous avez pensé non pas à ceux qui sont dans les bois, mais ceux qui prennent la mer.
Oui, si malheureusement vous avez un problème en bateau, vous ne savez pas forcément quel numéro composer pour prévenir les secours, eh bien la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Cagnes-sur-Mer, donc on reste dans les Alpes-Maritimes, a développé une application, elle s'appelle SNSM Mer en Sécurité. Elle permet notamment de se localiser sur la carte avec une position GPS précise et d'appeler directement le centre de sauvetage le plus proche en appuyant sur un simple bouton rouge. Je l'ai testé, l'appli est vraiment très simple d'utilisation, elle fonctionne jusqu'à 18 km des côtes environ.
Mais vous êtes allé en mer ?
J'ai testé à Paris, non mais
vous l'avez testé à Paris, et
oui,
donc
voilà.
Vous avez vu arriver les sauveteurs
les
en mer.
SNSM-Mer en Sécurité, c'est extrêmement important. Merci beaucoup pour cette application, vous allez trouver toutes les références des contenus qu'on a évoqués depuis ce matin, 9h, à la fois sur le site d'Europe 1. Et puis, si vous manquez une information, évidemment, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On attend aussi vos cartes postales, papier ou numérique. On adore le papier. Vous savez, ça décore notre bureau. Rose, attention, Olivier Pouls va parler et automatiquement, on va avoir faim. Mais avant, on avait envie de vous entendre chanter. Vous avez accepté de venir avec votre guitare. Et en hommage à votre grand-père que vous évoquiez il y a quelques minutes et en hommage à Nice... et à la culture niçoise. Vous avez accepté de nous interpréter Ciao Bella du premier album ?
Exactement.
Eh bien, on vous
écoute. Je pense que ça lui fait très plaisir de trôner au milieu de cette soca et de cette... En tout cas, merci pour ce bel hommage à Nice.
Au-dessus de mon front, il tire les ficelles de mes rêves, mes démons se font toujours la belle. Du large des grands fonds et jusqu'après la terre. Je les sens ainsi fond, les yeux de mon grand-père. Ciao Bella, les autres ont s'en fout, ciao Bella. Les autres, c'est pas nous, ciao Bella. Tu manques à ma vie, ciao Bella. Jamais je n'oublie ta voix. au-delà des étoiles. Périr du bon Dieu, lui sur sa jolie toile. Il tisse tous mes voeux au détour d'un chagrin, à l'angle de mes larmes. Il se fera un chemin et défait tous mes drames. Ciao Bella, les autres on s'en fout. Ciao Bella, les autres c'est pas nous. Ciao Bella, tu manques à ma vie. Ciao Bella, jamais je n'oublie. Ciao Bella, les autres on s'en fout. Ciao Bella, les autres c'est pas nous. Ciao Bella, tu mens à ma vie. Ciao Bella, jamais je n'oublie sa voix.
Est-ce qu'on peut applaudir
oui,
à
peut,
trois dans ce studio? J'espère que les auditeurs prendront la mesure du cadeau que vous venez de nous faire. Merci infiniment, Rose. On est très émue parce qu'en plus, c'est une très belle chanson et voilà, qui raccorde avec tout ce qu'on vient de se raconter
vrai,
depuis ce matin, à la fois sur votre projet Kérosène, dont on va parler encore un petit peu avant la fin de cette émission, et puis Nice aussi, qui a une importance à la fois pour vous et puis pour nous maintenant, parce que je les ai contaminés.
Les amis. Aussi, hein.
Merci beaucoup pour ce cadeau, ce moment, cette chanson. Je vous souhaite le même succès d'ailleurs avec L'arme à paillettes. On va reprendre nos esprits. Et puis,
ça va cartonner,
on en est sûr. Et on se retrouve dans un instant avec Olivier Pouls pour la dernière séquence de l'émission.
Toujours muet les hanches. 9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et oui, dernière séquence de ce club de l'été consacré à la chanteuse Rose. On aurait aimé que ça dure encore au moins 2-3 heures. Rose, cette semaine, Olivier tente d'agrémenter nos pique-niques avec des mets un peu raffinés. Et ce midi, vamos. Ouais, il faut bien tendre l'oreille. Monsieur, il dit gazpacho. Hein. Voilà, c'était une petite blague honnête pour vous, Olivier.
Il faut bien tendre
l'oreille. Oui, tendre l'oreille, Rose.
Vous n'avez jamais fait de chanson culinaire, non?
Non, la liste des courses, ouais, des choses comme ça.
Ouais. La liste, ça ressemblait à quoi, vous en souvenez?
Non.
Votre chanson porte-bonheur, hein, on est d'accord.
Quand je parlais plus de boire de la vodka que de manger quoi que ce soit. En
oui,
fait, hein.
Mais quand je pense que cette chanson, ça a été un peu une lettre de rupture amoureuse, ou en tout cas, vous avez essayé de récupérer un garçon en faisant la liste de toutes les choses que vous vouliez encore faire avec
et
lui.
Oui.
Et nous, on a pris ça pour un truc un peu joyeux, et en fait, pas du tout. Hein.
Bah si, parce que ça veut dire qu'on a, ça veut dire qu'on a encore du désir en fait de dresser une liste.
Oui, mais
donc c'est tout à fait positif en fait.
Sauf que maintenant, j'ai lu le livre et je sais que le garçon, il n'est pas revenu, même après lui avoir chanté cette
voilà,
chanson.
Voilà, il n'est pas revenu et c'est tant mieux.
S'il nous écoute. Bonjour.
Bonjour. Olivier, comment on cuisine un gazpacho digne de ce nom?
Eh bien, vous savez que le gazpacho, c'est la recette traditionnelle du sud de l'Espagne. C'est ce qu'on mange ou on boit, puisque c'est la nourriture liquide, quand il fait chaud pour se rafraîchir avec, évidemment, tous ces bons légumes de saison. Moi, je vous propose deux gazpachos différents aujourd'hui, emmenés en pique-nique. Et on va jouer sur les couleurs. Et je vous propose un gazpacho rouge et un gazpacho vert. Parce
et
qu'en
toujours
fait,
à la tomate, les deux.
Alors, oui, la tomate étant l'ingrédient de base du gazpacho. Mais vous savez, on trouve des tomates vertes.
Oui.
Et donc, on va s'amuser tout d'abord. Alors, on va commencer par le gazpacho rouge. Donc, la tomate, bien sûr. Un peu de poivron, dont on aura ôté la peau, c'est très important. Et en général, d'ailleurs, quand on fait un gazpacho, on retire la peau des légumes, même de la tomate, parce que c'est très difficile de le mixer de manière très fine. Surtout que le gazpacho, on le passe dans un blender. Donc, il va rester des petits morceaux, c'est pas très agréable. Donc, on enlève la peau de tous les légumes. Tomate, poivron, rajoutez quelques framboises, une petite poignée
ça.
De framboises.
Ouais.
Ça donne un côté acidulé qui est assez intéressant. Ça va donner un petit peu de rondeur aussi. Et puis, pour donner du peps, parce que le gazpacho, ça doit avoir du goût, un peu de piment d'Espelette.
Eh oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, avec ce trio de fruits et légumes, le tout mixé, un tout petit peu d'eau, si vous voyez que la texture n'est pas assez liquide.
Assez liquide, ouais.
Vous mettez ça ensuite au frigo et vous emportez en pique-nique, bien sûr. Avec, alors, ça se boit comme ça. On peut rajouter quelques petits croûtons de pain pour donner de la texture. Et je vous en propose un deuxième, un vert, parce que j'aime bien l'idée des couleurs. Donc de la tomate verte, hein, on en trouve, du concombre,
du poivron pour le coup vert, un peu de courgette, et là vous allez rajouter de la menthe.
Mmh. Oh, ça va être bon ça,
voilà,
avec la menthe.
Et donc là vous allez avoir un jeu de saveurs, de textures, très intéressant aussi. Pareil, on épluche les légumes, on les mixe au blender, on rectifie la texture avec un ou pas un petit peu d'eau.
On met un peu de piment aussi, puis, dans la verte ou pas?
Pas forcément, parce qu'avec la menthe, vous allez avoir...
Exactement,
avec la menthe, vous allez avoir des saveurs suffisamment intéressantes pour rajouter d'autres herbes de votre jardin, si vous voulez mettre, je ne sais pas moi, un petit peu de persil, ce que vous voulez, quoi, du basilic, ça marche aussi, de la coriandre, voilà.
Et tout ça au frais, et après vous faites vraiment les malins devant les copains au pique-nique. Hein.
Voilà.
C'est un peu la classe.
Pour qui le rouge, pour qui le vert,
ouais.
Et on peut même s'amuser à en faire du jaune. Enfin, vous savez, en général, ce qui est intéressant dans les saveurs, dans le mariage des saveurs en cuisine, c'est que souvent, La couleur est un élément fil conducteur. Et quand vous associez des éléments qui ont la même couleur, en général, ça fonctionne.
Ouais, et c'est très bon et c'est très joli dans les assiettes.
Voilà.
Merci infiniment pour ces deux recettes. Si vous les testez, vous nous faites une photo, vous nous l'envoyez sur Twitter, même si c'est raté. Hein. Et puis surtout, vous nous dites si c'est bon qu'on gronde ou pas, Olivier, après, avec ses suggestions. Si vous avez des questions pour Olivier, vous n'hésitez pas non plus. Hein. C'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et nous, on va finir le paquet de Soca Chips.
Vous avez fini le paquet de Soca Chips. Mais juste avant, Rose, est-ce qu'on peut imaginer que ce livre et cet album qui vont sortir fin du mois de septembre deviennent une sorte de spectacle musical sur scène après?
On peut tout à fait l'imaginer.
Plus qu'un concert classique. Enfin, j'arrive pas à croire que vous n'allez pas faire un truc original avec tout ça.
Bah, ça serait dommage quand même, parce que j'ai eu cette chance-là que ça me tombe un peu du ciel, quelque part. C'est-à-dire que tout s'est enchevêtré parfaitement. Et j'avais pas prévu de faire un album ni d'écrire un livre. Franchement, j'ai commencé à écrire sans savoir où j'allais. Et les chansons sont arrivées comme pour justement illustrer tous les propos. Donc c'était la bande son en fait du livre.
Ouais.
Et j'ai eu la chance que l'éditeur qui a signé ce livre, donc Ipanema édition, me propose. C'était assez inédit chez lui, parce que la musique c'était pas forcément la première chose qui leur venait à l'idée, mais ils ont tenu à faire un disque, et j'avais pas idée à quel point il aurait pu être beau, parce que j'avais pensé à faire des piano-voix qui illustreraient un petit peu le propos, puisqu'on les a composés piano-voix avec le compositeur. Et en fait, c'est devenu un disque qui, pour moi, est un de mes... Enfin, j'ai envie de dire le plus bel album. Enfin, aujourd'hui, c'est souvent comme ça qu'on le pense. Le nouveau est toujours le préféré. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Je sais qu'il fait partie de mes albums les plus réussis.
Avec beaucoup de cordes qui viennent s'ajouter au piano.
Beaucoup
et
de cordes.
Voix.
Et puis, j'aime bien ce côté, justement, pas homogène, parce que chaque période a sa chanson. Chaque chapitre a sa chanson. Donc, forcément, ce n'est pas la même chose quand Rose fait la fête ou quand Keren est à Nice en train de se chercher. Ou quand elle sombre, quand elle va mal ou quand elle renaît, ce n'est pas du tout. Alors, je ne m'appelle pas Alain Delon, je ne parle pas le mot à la troisième personne, mais c'est par rapport au livre.
On a bien
c'est
compris.
Important. Et vraiment, le disque illustre parfaitement le livre, et je pense qu'il donnera envie de lire le livre, et le livre donnera envie d'écouter l'album. C'est ce que je souhaite. Et donc,
alors,
tout ça,
ça fera un projet,
j'allais dire.
Le projet que nous aimons.
Alors, super spectacle.
Nous, ça a fonctionné avec Lise. Voilà, on est passé du livre au disque et du disque au livre, avec un truc très particulier sur le disque, c'est qu'on l'écoute avec les chansons dans l'ordre.
Ouais.
Impossible de mettre, vous savez, l'option
lecture
aléatoire. Hein.
Ça serait trop dommage.
Ce serait trop dommage, parce que même dans les sonorités, je trouve que tout ça s'enchaîne très très bien.
Tout à fait.
C'est
tout
un
fait.
Magnifique projet. On attend de vous voir sur scène. Merci d'être
venue.
Merci,
c'est adorable. J'ai ravie d'être là, et surtout
bah nous aussi,
cette émission
d'être
restée,
voilà, avec nous pour ces deux
Merci
heures,
beaucoup.
Pour votre voix, pour votre chanson, pour votre livre et votre album, le projet Kérosène qui sortira à la fin du mois de septembre. L'écoute de l'album a été un enchantement. La lecture du livre, une surprise, un étonnement et un immense plaisir pour moi aussi. Je vous dis à bientôt, Rose, pour dévoiler aux auditeurs l'intégralité de l'album. Rose, vous étiez institutrice. Est-ce que vous mettez une bonne note au club de l'été?
Ah oui, totalement. Là, on est sur un 20.
Sur combien?
21.
D'accord.
Ouais, parce que c'est il y a plus un pour la présentation.
Ah ouais.
Elle est bonne celle-là.
Et bim là pour là. Les Niçois. Lise Pressac et Olivier Pouls, rendez-vous demain, même lieu, même heure. Non, pas du tout.
Non.
On sera avec un garçon qui est très discret dans le paysage audiovisuel français. Il s'appelle Philippe Googler. Et pourtant, depuis des années, il nous emmène dans des trains pas comme les autres sur France 5. Et avec lui, nous partirons découvrir une autre région, mais alors totalement différente, dans laquelle nous ne sommes jamais allés, les amis, la Franche-Comté.
Vous allez voir belle terre de gastronomie.
Oui, j'ai bien l'impression qu'il vous convient plus que Nice ou pas? Attention.
Attention à la réponse.
Allez,
mangez une chips. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff en vous souhaitant une très très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.